VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 universelle du mardi 31 juillet 2018. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Le gouvernement zimbabwéen met en garde contre toute annonce de résultats contre ceux de la commission électorale, alors que l'opposition crie victoire. Toujours pas de résultats officiels au Mali, deux jours après la présidentielle du dimanche, ce qui n'empêche pas certains candidats d'engager la bataille de l'opinion publique. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce la fin des poursuites judiciaires contre le pasteur Toumi. Et en partie magazine, retour sur la décision américaine de suspendre le Rwanda de l'AGOA.
En ce qui concerne le Rwanda, nous allons prendre des mesures pour venir en aide aux entreprises affectées pour trouver d'autres débouchés et d'autres marchés.
Ici aux États-Unis, le premier procès dans l'ingérence russe présumée dans la présidentielle américaine de 2016 s'est ouvert aujourd'hui en Virginie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Au Zimbabwe, le gouvernement met en garde contre toute annonce de résultats en dehors de ceux de la commission électorale. Mais cela n'empêche pas le mouvement pour le changement démocratique d'affirmer que son chef Nelson Chamisa a remporté la présidentielle dès le premier tour face au président sortant Emmerson Mnangagwa, qui est également le patron de la ZANU-PF. On fait le point avec Yacouba Wetraogo.
Nous avons reçu les résultats de nos agents. Les résultats montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que nous avons gagné les élections et que le prochain président du Zimbabwe est Nelson Chamisa, a déclaré un haut responsable du parti Tendai Biti. Lors d'une conférence de presse au siège du parti, il a ajouté que le MDC a réalisé l'impossible devant quelques partisans euphoriques. Le MDC dit cependant être inquiet, lui qui n'a cessé de dénoncer, avant le scrutin, le manque de transparence et la partialité de la commission électorale. « Il y a un retard délibéré dans l'annonce des résultats. Ce retard est totalement inacceptable », a estimé Tendai Biti, mettant au défi la commission électorale d'annoncer les résultats. De son côté, le président Mnangagwa, qui préside le Zimbabwe depuis novembre dernier, s'est dit confiant de remporter les premières élections depuis la chute de Robert Mugabe, qui gouvernait le pays d'une main de fer depuis 1980. Les premiers résultats sont attendus ce mardi et les résultats complets d'ici samedi. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages pour la présidentielle, un second tour sera organisé le 8 septembre.
Au Mali, les résultats de la présidentielle de dimanche sont attendus d'ici vendredi. Pendant ce temps, certains candidats tentent de convaincre l'opinion publique qu'ils seraient bien au rendez-vous d'un second tour qui, s'il a lieu, se tiendrait le 12 août. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Jacques Aristide.
Les Maliens sont toujours dans l'attente ce mardi, car les résultats officiels du scrutin ne sont pas encore connus. Mais les équipes de campagne de certains candidats n'hésitent pas à s'avancer. La dernière concerne l'Alliance démocratique pour la paix, l'ADP, qui affirme que son candidat, le riche homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, est arrivé en deuxième position et devrait ainsi décrocher sa place au second tour. Un second tour qui devra se tenir le 12 août prochain s'il est confirmé. Avant l'ADP, le camp du président sortant a déclaré qu'Ibrahim Boubacar Keïta était arrivé largement en tête. Son porte-parole, Mahamadou Camara, dit se baser sur les premiers résultats compilés par ses représentants. Quant au parti du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, il a également annoncé que celui-ci était en tête, mais qu'un second tour allait probablement avoir lieu pour départager les deux premiers candidats. Aucun de ces partis n'a avancé de chiffres toutefois, car la loi électorale malienne leur interdit de les communiquer avant qu'ils ne soient rendus officiels. Les premiers résultats sont attendus d'ici à vendredi. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
L'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté un nouveau code électoral qui consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote. Le texte exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Cette nouvelle disposition est décriée par l'opposition qui y voit une exclusion et un recul démocratique par rapport à l'ancien code électoral qui permettait l'usage de la carte consulaire. Quelque 11 millions de Burkinabés vivent hors de leur pays, selon le ministère des Affaires étrangères, tandis que 16 millions de Burkinabés vivent au Burkina Faso. En République du Congo, le gouvernement a officiellement annoncé ce mardi la fin des poursuites contre le pasteur Toumi, contre lequel le procureur de la République avait décerné un mandat d'arrêt. Devenu libre, le pasteur Toumi peut ainsi encourager ses miliciens à déposer leurs armes et à intégrer le processus de désarmement dans le pool. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
Le pasteur Toumi, poursuivi depuis 2016 pour acte de terrorisme, est désormais libre de ses mouvements. Le procureur de la République, dans un arrêt rendu le 27 juillet dernier, a mis fin à toutes les poursuites. Le porte-parole du pasteur Toumi, Philippe Anebibi, qui a assisté à la cérémonie annonçant cette mesure par le ministère de l'Intérieur, a indiqué que désormais c'était l'heure de la paix, appelant les ex-ninjas à se rendre dans les centres de désarmement dans le pool pour déposer leurs armes. Le directeur de cabinet du ministre l'Intérieur, Séraphin Ondélé, a annoncé en même temps un calendrier du désarmement des ex-combattants, assurant que le gouvernement dispose de tous les moyens nécessaires pour mener à bien cette opération. Le pasteur Toumi s'était retiré dans les forêts du Poule depuis l'attaque armée en avril 2016 dans les quartiers sud de Brazzaville. La police avait alors utilisé des gros moyens dans les hélicoptères de guerre pour les traquer dans le Poule. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une rencontre du mouvement pro-démocratie lutte contre le changement Lucha avec la presse a été interdite par la police ce mardi à Goma, dans l'est du pays. La police explique l'interdiction par l'absence d'autorisation du maire. Un militant de la Lucha a lu dans la rue un communiqué qui dénonce les conclusions d'une enquête judiciaire sur la mort de Luc Lukulula, qui est âgé de 33 ans, qui était mort à la mi-juin dans l'incendie de sa maison à Goma. Pour l'instant, il n'y a aucun prévenu à poursuivre. C'est tout simplement un incident malheureux, a déclaré le procureur la semaine dernière. Une quarantaine de manifestants arrêtés la veille à Kinshasa ont par ailleurs été libérés en début d'après-midi. En Centrafrique, trois Russes qui portaient des cartes de presse ont été assassinés la nuit dernière près de Sibout dans le centre du pays, selon une source de VOA Afrique. Les corps des trois hommes ont été déposés ce matin à la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la Centrafrique, à Sibout. Leur chauffeur est porté disparu. C'est la première fois que l'assassinat de citoyens russes est rendu public en Centrafrique, où la présence de la Russie est de plus en plus marquée depuis plusieurs mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, ouverture du procès de l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, est accusé de fraude fiscale et de blanchiment dans le cadre de l'enquête russe, cible des foudres du président américain qui dénonce sans relâche une chasse aux sorcières. Retour sur cette première journée d'audience avec Nicolas Pinon.
Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump entre mai et août 2016, comparaît devant un tribunal à Alexandria dans l'État de la Virginie pour son premier procès qui devrait durer trois semaines. Cette première journée est consacrée à la sélection des 12 jurés. Manafort est accusé de blanchiment ainsi que de fraude fiscale et bancaire liée à ses activités de lobbyiste pour l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych, des faits mis à jour par Robert Mueller à la faveur de son enquête russe. Le procureur spécial cherche toujours à déterminer s'il y a eu ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et si oui, qui était au courant. Parmi la trentaine d'individus déjà visés par le procureur spécial, dont une majorité de Russes, Paul Manafort est le seul Américain à avoir refusé de passer un accord avec la justice pour éviter un procès. Et un tel accord n'aura pas lieu, a réaffirmé ce mardi son avocat à la chaîne CBS. Tôt ce matin, Donald Trump a une nouvelle fois affirmé sur Twitter qu'il n'y avait pas eu de collusion avec la Russie et que de toute façon ce n'était pas un crime, une ligne de défense déjà utilisée par son avocat, Rudy Giuliani.
L'Iran a accueilli avec scepticisme l'offre de Donald Trump de rencontrer les dirigeants iraniens. Le vice-président du Parlement, Ali Motahar, a affirmé que discuter avec le président américain serait une humiliation. Plusieurs États américains et les partisans d'un meilleur contrôle des armes à feu tentent de bloquer la mise sur le marché de plans numériques permettant de fabriquer en toute discrétion des armes à l'aide d'imprimantes 3D. Fin juin, après une longue bataille judiciaire, le gouvernement fédéral a finalement autorisé un groupe de néanmoins Defense Distributed à mettre en ligne des schémas numériques permettant de fabriquer une arme à partir d'une imprimante 3D. L'objet est en plastique mais fonctionne comme une arme bien réelle. N'étant pas construit industriellement par un fabricant agréé, il ne possède pas de numéro de série et ne sonne pas au détecteur de métaux. Un tribunal turc a refusé de lever l'assignation à résidence d'un pasteur américain accusé de terrorisme et d'espionnage dans une affaire qui a fortement tendu les relations entre Ankara et Washington. L'avocat du pasteur Andrew Brunson avait demandé hier à ce que celui-ci soit libéré et que son interdiction de quitter le territoire soit également levée. La semaine dernière, le président Trump et son vice-président Mike Pence ont mis en garde la Turquie contre de lourdes sanctions si le pasteur n'était pas remis en liberté. Les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête sur des entreprises locales soupçonnées d'avoir importé du charbon nord-coréen l'an dernier en violation des sanctions des Nations Unies. L'enquête intervient après que le ministre de l'Unification a indiqué aux parlementaires la semaine dernière qu'un total de 9000 tonnes de charbon nord-coréen a été importé en Corée du Sud via la Russie à bord de deux cargos l'an dernier. Par ailleurs, selon le Washington Post, les agences américaines de renseignement pensent que la Corée du Nord construit de nouveaux missiles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux jusque-là appliqués aux vêtements importés du Rwanda. Washington répond au droit de douane que Kigali a imposé sur les importations de vêtements d'occasion qui viennent principalement des États-Unis. Le Rwanda veut renforcer son industrie textile et estime que le marché colossal des vêtements d'occasion en Afrique de l'Est constitue une entrave au développement des industries textiles locales. D'après USAID, la région importe un huitième des vêtements déjà utilisés dans le monde. Mise en place en Côte d'Ivoire d'un collectif d'exportateurs nationaux de cacao. Le collectif vise à réduire les coûts d'exploitation et être plus compétitif que les multinationales du secteur. Il comprend 12 exportateurs sur les 21 que compte le pays. D'ici la fin de la campagne en septembre, il compte exporter 350 000 tonnes de cacao. Pendant la saison 2016-2017, la filière cacao a perdu au moins 185 milliards de francs CFA pour mauvaise gestion. Abidjan avait enregistré une mévente de plus de 200 000 tonnes de cacao sur une production totale annuelle de 2 millions de tonnes. La cité portuaire de Massawa en Érythrée espère retrouver son activité économique d'antan. Le port a été le lieu d'une bataille décisive de la guerre d'indépendance. Pour les Érythréens, la paix retrouvée avec l'Éthiopie insufflera un nouveau dynamisme à l'économie de leur nation. Asmara exporte ses minéraux et importer ses biens de consommation via le port de Massawa.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La Coupe nationale du Cameroun commence demain.
Oui, la compétition débute par les 32e de finale. Vainqueur du championnat qui a pris fin dimanche dernier, le Coton Sport de Garoua fera face à Sagay FC de Lagdo. Fovu de Baham donne rendez-vous à Ofta de Kribi. Caron Sport de Yaoundé joue contre Volcan FC de Fumbo. À suivre aussi la rencontre Panthère Sportive de Ndé, Victoria United de Limbé.
En Europe, la Ligue 1 a un nouveau slogan.
La Ligue des Talents, c'est le nouveau slogan annoncé par la Ligue de football professionnelle. Elle dit vouloir faire écho à l'excellence française en matière de football et accroître sa notoriété à l'international faute sa présidente Nathalie Boye de la Tour. Après avoir vu ses droits télé sur la période 2020-2024 dépasser le cap du milliard d'euros en mai et l'équipe de France remporter la Coupe du Monde avec une majorité de joueurs formés dans son championnat, la Ligue 1 espère attraper son retard de développement par rapport à ses principaux concurrents européens. Le championnat reprend le 10 août prochain.
Tennis, retour réussi pour Andy Murray.
L'ancien numéro 1 mondial a remporté son premier match sur surface dure depuis près de 17 mois en battant l'Américain Mackenzie McDonald au premier tour du tournoi de tennis de Washington. Le Britannique, blessé à la hanche depuis juillet 2017 et opéré en janvier dernier, a eu besoin de 2h37 minutes et de 7 balles de match pour prendre le dessus sur l'Américain en 3-7, 3-6, 6-4 et 7-5.
Et en basket, LeBron James dit vouloir ramener les Lakers au sommet.
Aider l'équipe à retrouver des niveaux qu'elle n'a pas atteints depuis un moment, c'est un challenge qui me plaît, a déclaré l'ancien ailier de Cleveland, 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Les Lakers, 2e franchise la plus titrée avec 16 sacres juste derrière les Boston Celtics, 17, connaissent leur pire période de résultats depuis 5 ans. Ils n'ont pas réussi à atteindre les playoffs depuis 2013 et leurs deux derniers titres datent de 2009 et 2010 avec Kobe Bryant. James a signé un contrat de 150 millions de dollars pour 4 saisons avec les Lakers, après 4 saisons passées à Cleveland.
Merci Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Les Maliens sont toujours dans l'attente des résultats du premier tour du scrutin présidentiel de dimanche, alors que le dépouillement se poursuit. Mais les équipes de campagne de certains candidats n'hésitent pas à affirmer que leurs candidats respectifs assuraient d'une place dans un éventuel second tour. Le parti du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, a par ailleurs fait des allégations de bourrage d'urnes dans des localités du Nord. Pour une réaction, Jacques Aristide, notre envoyé spécial à Bamako, s'est entretenu avec Boubacar Terra, coordinateur national du groupe d'observateurs WANEP.
Selon les informations que nous disposons, le dépouillement est en cours. Ce que nous saluons déjà, c'est que parmi les observateurs nationaux qui ont été habilités par l'État, WANEP fait partie des observateurs nationaux qui sont habilités à participer au processus de dépouillement.
Des irrégularités ont-elles été notées ?
Pour le moment, nous nous abstenons de tout commentaire puisque nous ne voudrons pas anticiper. Donc nous nous en tenons déjà à la proclamation qui sera faite par les plus hautes autorités.
L'équipe de campagne du candidat Soumaïla Cissé a dénoncé ce qu'elle appelle des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du Nord. Qu'en savez-vous ?
Nous avons déployé environ 300 observateurs sur toute l'étendue du territoire, dans les cercles et dans les capitales régionales. Alors, des cas de bourrage d'urnes ne nous ont pas été rapportés. Mais nous pouvons quand même estimer qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais le candidat qui le dit, peut-être il a des preuves, mais nous, en tout cas, nous n'avons pas reçu d'informations de tels bourrages.
Après les équipes du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, le camp d'un autre candidat, Aliou Diallo, affirme ce mardi que celui-ci sera au second tour et qui devra départager évidemment les deux candidats arrivés en tête. Est-ce à craindre que certains candidats n'accepteront pas les résultats de ce scrutin et un tel scénario risque-t-il de déclencher une crise post-électorale ?
Oui, nous pouvons toujours garder la vigilance, être vigilants, faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait un consensus. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas anticiper les choses. Nous attendons la proclamation officielle des résultats provisoires. Et suite à cela, s'il y a des mesures à prendre, des actions de suivi, des actions de plaidoyer à adopter auprès des autorités nationales, nous le faisons. Puisque nous avons un rôle contributif, nous allons appeler à la paix, au dialogue, pour qu'il y ait un consensus.
Mais comme certains autres observateurs le disent, on se dirige vers un second tour, n'est-ce pas ?
Bon, nous ne pouvons pas confirmer cela, parce que cela constituerait également une anticipation du résultat, qui n'est pas encore proclamé officiellement.
Boubacar Terra, coordinateur national du groupe d'observateurs WANEP à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, les principaux groupes de médias dénoncent un projet de loi visant à réglementer la pratique du journalisme. L'Association des éditeurs de la presse écrite du Nigeria et l'Union nationale des journalistes rejettent le projet de loi qu'elles jugent draconien, primitif et anticonstitutionnel. Le reportage de Gilbert Tamba, le correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le projet de loi, une fois adopté par le Parlement fédéral, risque de criminaliser la pratique journalistique au Nigeria, malgré le fait que les lois du pays disposaient déjà suffisamment de dispositions et de recours pour obtenir réparation. Le projet de loi est aussi considéré par les médias nigériens comme une tentative d'ingérence dans les activités des professionnels des médias du pays. Wahid Odishile est le président de l'Union des journalistes au Nigeria.
Ce projet de loi est contre la liberté d'expression dans le sens que c'est une tentative de criminaliser le journalisme et la libre expression. Il y a certaines provisions dans ce projet de loi graves qui nous donnent le sentiment que si nous acceptons son adoption par le Parlement, ça sera un désastre pour les médias au Nigeria.
Une autre provision du projet de loi crée un conseil d'administration composé des représentants du gouvernement, des organes de médias et des parlementaires qui sera chargé des questions des médias et dont son président sera nommé par le ministre de l'Information. Mais pour le rédacteur en chef du journal Daily Trust, cela est tout simplement inacceptable. Manir Dan Ali.
Imaginez l'idée de créer un conseil d'administration au sein duquel plusieurs personnalités nommées par le gouvernement vont s'asseoir pour juger ce que font les médias. Imaginez que le ministre de l'Information s'octroie des pouvoirs pour sanctionner les institutions de médias au Nigeria. Vous pouvez imaginer ce qui va arriver.
Même les maisons des médias comme radio ou télévision pourraient désormais faire l'objet de fermetures par ces conseils en cas d'offense. Maître Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il se dit inquiet et estime que ce n'est pas le rôle d'un conseil d'administration des médias.
Après avoir parcouru ce projet de loi en tant qu'avocat, il y a une implication légale. Je suis inquiet du fait qu'on essaie de conférer à ce conseil le rôle d'une cour de justice. Je pense que dans son article 16, quand vous regardez, le projet de loi donne mandat au conseil pour enquêter les disputes et arriver à une décision. Cela, pour moi, ne doit pas être comme ça.
En tout cas, le bras de fer est engagé entre les médias et le gouvernement qui soutient l'adoption du projet par le Parlement d'une part et entre les dirigeants des organes de défense des intérêts des médias et le Sénat de l'autre qui poussent pour le rejet de ce projet de loi. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda dans le cadre de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act. L'annonce intervient en réponse aux droits de douane imposés par le Rwanda en mars dernier sur les importations de vêtements de seconde main en provenance des États-Unis. Pour réaction, Dili Diko a joint à Kigali Olivier Nduhuru Ngirehe, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Coopération et Communautés de l'Afrique de l'Est. On l'écoute.
Premièrement, il faut savoir que l'AGOA, c'est un geste unilatéral des États-Unis envers des pays d'Afrique. Ce n'est pas un accord négocié. Et en ce qui concerne le Rwanda, nous allons prendre des mesures pour venir en aide aux entreprises affectées pour trouver d'autres débouchés d'autres marchés. Mais en tout état de cause, toute décision des États-Unis sur l'AGOA, c'est à la discrétion des États-Unis puisque c'est un acte unilatéral qui n'a pas été négocié par les parties en présence.
La décision américaine est une mesure de rétorsion aux droits de douane imposés par le Rwanda sur les importations de vêtements d'occasion américains au Rwanda. Alors, pourriez-vous m'expliquer pour quelles raisons est-ce que le Rwanda a-t-il choisi de mettre en place des droits de douane sur les vêtements de seconde main venant des États-Unis ?
Ce n'est pas le Rwanda qui a pris cette décision. C'est les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, au sein du sommet de l'East African Community qui a pris cette mesure pour encourager ou promouvoir l'industrie textile dans notre communauté. Et donc, le Rwanda a maintenu sa décision. Nous avons continué à appliquer la décision qui a été prise pour encourager le secteur textile dans notre région et dans notre pays.
On l'a vu la semaine dernière, le Rwanda a signé plusieurs accords bilatéraux avec la Chine. Il semble donc que les relations économiques entre les deux pays sont au beau fixe. Est-ce qu'on peut dire que les relations sont tout aussi bonnes qu'avec la Chine ou est-ce qu'on se trouve plutôt dans un contexte de guerre commerciale ?
Il n'y a pas de guerre commerciale entre le Rwanda et les États-Unis. Malgré ces décisions, on va continuer à travailler avec les États-Unis d'Amérique pour trouver les meilleures conditions à des échanges commerciaux qui soient mutuellement bénéfiques. Et donc, il n'y a pas de crise ou de guerre commerciale, mais on va continuer à travailler ensemble pour que le commerce entre nos deux pays soit dans les meilleures conditions possibles.
C'était le ministre Olivier Nduhurungirehe, joint à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Dans le but de ralentir et d'inverser les effets de la déforestation dans la région sahélienne, un vaste programme de reboisement a été lancé il y a 10 ans par 27 pays dans le but de créer ce que l'on appelle la Grande Muraille Verte de l'Afrique. À ce jour, le Sénégal a planté plus de 11 millions d'arbres et la localité de Mbar Toubab est un des centres névralgiques de la lutte contre l'avancée du désert. Plus de précisions avec Arzuma Compaoré.
Le Sahel, ceinture semi-aride située sous le Sahara, s'étend du Sénégal à l'ouest à l'Érythrée à l'est et abrite plus de 100 millions de personnes. Les experts disent que les dommages sur l'environnement peuvent être inversés avec des pratiques simples pour retenir l'humidité du sol. Eladji Goudjabi, responsable technique des eaux et forêts de Mbar Toubab, inspecte les arbres plantés dans cette région du Sénégal dans le cadre des efforts de réhabilitation du Sahel.
Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle, quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, vous, si vous êtes là, vous ne pouvez pas, même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, et alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres, même jusqu'à 1 km. Donc, cela veut dire que vraiment, la Grande Muraille est en train de faire ses efforts.
En plus de ralentir et d'inverser les effets de la désertification, le projet de plantation de murs d'arbres au Sahel vise également à créer des emplois et à améliorer la sécurité alimentaire. La communauté de Mbar Toubab gère une pépinière qui fournit des plantes pour le projet. Les résidents prennent soin des semis et plantent les arbres à un prix modique. Ici, les élèves se joignent à la tâche et partagent même avec leurs parents ce qu'ils ont appris sur la plantation d'arbres. Kumba est une élève de 12 ans. À l'école Mbar Toubab.
On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça, on a vendu une partie.
Ibrahima Diawara, directeur de l'école élémentaire de Mbar Toubab.
De 1999 à 2014, l'école a été fermée et réouverte plusieurs fois. Et même, l'école était fermée de 2006 jusqu'à 2014. Il n'y avait plus de cours parce qu'il n'y avait plus d'élèves. Il y avait la transhumance. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Il y avait aussi les mariages précoces et autres. Donc maintenant, avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation. Et il y a aussi d'autres activités qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école.
Selon les Nations Unies, quelques 60 millions d'Africains pourraient être forcés de quitter leur foyer en moins de 5 ans. À cause de la désertification. Cependant, grâce à la Grande Muraille Verte, 50 millions d'hectares de terre pourraient être restaurés dans la région d'ici 2030.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.